des conseils et des anecdotes qui, je l'espère, vous donneront un second souffle pour vous aider à faire face aux défis que vous rencontrez au quotidien. C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs, 19h, sur les ondes de CIBL.
Vivre Montréal, Montréal.
Alors, ici CIBL, on entre en onde bientôt, dans 5 minutes.
CIBL 101.5, au cœur de Montréal.
C'est intermittent jusqu'à Wellington. L'hiver arrive sous congestion depuis Turcot, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132.
Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
Ah, cool, j'ai de la gym.
Parce que la 132 demeure encore occupée.
Il est 9h.
CIBL. 101.5.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes le jeudi 25 avril et ici Charline Caro, votre animatrice en cette journée pluvieuse. Non, ça c'était hier, en cette journée ensoleillée. Et aujourd'hui on parle de la journée de la visibilité lesbienne, de rhétorique et de travail invisible avec trois invités de qualité. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, la ville de Laval souhaite mettre en place une aide financière pour les utilisateurs de Communauto, une première au Québec. L'administration du maire Boyer cherche par ce biais à accélérer l'adoption de l'autopartage en offrant jusqu'à 500 $ de remboursement aux résidents qui utilisent nouvellement ce service. Et ensuite, c'est aujourd'hui le début du Festival littéraire international organisé par Métropolis Bleu. L'événement rassemble plus de 150 auteurs, autrices et invités venus du monde entier pour dialoguer sur divers thématiques en lien avec la littérature, bien sûr, et l'actualité également. L'édition 2024 est placée sous le thème de rêve et utopie. C'est donc à retrouver à l'Hôtel 10 jusqu'à dimanche. On continue sur CIBL avec l'entrevue de Tara Chanadi. Et je reçois ce matin Tara Chanadi, directrice générale du Réseau des lesbiennes du Québec. Bonjour Tara.
Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir.
Avec grand plaisir, et je vous reçois dans le cadre de la journée spéciale qui s'en vient demain. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus?
Oui, donc la journée de visibilité lesbienne officiellement se célèbre demain, donc soit le 26 avril. Et à Montréal, nous on va la fêter le 27 avril au Bain Mathieu à partir de 14h.
Et alors quelle est l'histoire de cette journée? Elle a été créée à Montréal, c'est ça?
Oui, elle a été en fait célébrée dans plusieurs villes canadiennes. Donc, il y avait une motion qui avait été adoptée à la fin 81. Donc, la première journée de visibilité lesbienne officielle était en 1982. Et elle a été organisée par des collectifs dans les années 80 à Montréal, donc notamment des collectifs de lesbiennes dans le cadre de différents organismes qui se rassemblaient pour fêter. Puis il y a une importance particulière à la journée de visibilité lesbienne parce qu'on est souvent invisibilisé dans les communautés LGBT. Donc, on peut par exemple penser au village gay, où est-ce qu'il y a une énorme quantité de bars, de clubs, de saunas, de lieux de rassemblement pour les hommes. Mais le dernier bar lesbien officiel à Montréal a fermé ses portes en 2013. Mm-hmm. Donc, c'était le Drugstore. Donc, il n'y a vraiment pas la même visibilité, il n'y a pas les mêmes lieux de rassemblement fixes pour les lesbiennes et les femmes bisexuelles, queer et les personnes mm-hmm. lesbo-queer. Donc, c'est particulièrement important pour nous de célébrer une journée où est-ce qu'on peut se reconnaître à travers différents espaces et se rassembler.
Mmh. D'où le fait qu'on parle de journée de la visibilité et pas forcément de journée nationale globale. C'est parce qu'on va appuyer sur ce terme-là, c'est ça?
Exact, exact. Elle est quand même célébrée à travers... Il y a des dates un peu différentes à travers le monde. Donc, en Europe, il y avait notamment aussi la semaine de la visibilité lesbienne. Mais donc, officiellement, au Québec et dans le Canada, on va la célébrer le 26 avril. Mm-hmm.
Alors, le RLQ que vous présidez a dévoilé une campagne à cette occasion intitulée « Habiter l'espace ». De quels enjeux traite cette thématique?
Donc, pour nous, c'est important de souligner la présence des femmes et des personnes lesbiennes, bisexuelles et queer à travers différents espaces, que ce soit les espaces médiatiques, l'espace public, les espaces culturels, les espaces politiques. Donc, on voulait vraiment rejoindre une diversité de personnes. Donc, souvent, on est est isolé dans nos milieux, on se sent un peu en minorité. Donc, c'est de montrer des figures lesbiennes à travers différents milieux, de pouvoir se reconnaître. Puis autant de célébrer l'investissement d'espaces hétéronormatifs, donc le fait de transformer des espaces hétérosexuels, de pousser. Donc, par exemple, on a une remise de prix cette année qui célèbre quelqu'un qui a vraiment fait des grandes avancées légales pour le droit des familles gays et lesboparentales. Donc, de transformer un espace légal qui était très codé de façon hétérosexuelle et en même temps de célébrer aussi tous les potentiels, tous les grands potentiels des collectifs qui s'organisent pour créer des espaces de rassemblement avec peu de ressources, donc des espaces alternatifs lesbiens.
C'est ça, tu parles d'espaces publics, légaux, il y a aussi ces lieux de rassemblement que vous voulez mettre en lumière à travers cette campagne. Quels sont-ils exactement?
Exact. Donc, ben c'est ça, il n'y a plus de bars, lesbiens depuis 2013 à Montréal. Donc, c'est quand même assez complexe comme enjeu. Donc, il y a plusieurs raisons qui sous-tendent la disparition des bars lesbiens. Mais il y a une grande quantité de collectifs. Donc, il y a plus d'une dizaine de collectifs événementiels qui organisent des soirées à travers la ville. Donc, ça va souvent être dans des bars changeants, dans des lieux changeants. Donc, la visibilité lesbienne à Montréal est plus souvent fragmentée. Donc, on voit, parfois, on dit que le Mile End est un lieu plus lesbien que le village, dans le plateau aussi. Donc, ça va vraiment être des lieux plus changeants. Donc, pour nous, c'était important de créer un lieu de rassemblement qui pouvait traverser toutes ces différentes différences puis se rassembler vraiment ensemble de façon intergénérationnelle lors d'un événement.
Et alors, pourquoi c'est important de se rassembler?
C'est important pour se reconnaître, pour se sentir exister, pour se sortir de l'isolement. Donc, avoir une journée où est-ce qu'on peut se sentir bien de juste être qui on est sans devoir... se faire regarder, souvent si c'est des petites choses comme des regards dans des lieux quand on sort avec quelqu'un de même sexe, quand on est ensemble avec des groupes d'amis, il va y avoir des regards, parfois des commentaires hostiles. Donc, d'avoir des endroits où est-ce qu'on peut se sentir vraiment pleinement en sécurité.
Et alors, quel est l'historique de ces lieux? Est-ce que c'est quelque chose qui date depuis longtemps, qui a toujours existé ou c'est assez récent?
Oui, les premiers bars lesbiens, en fait, étaient dans les années 50 dans le village, donc ça fait quand même très longtemps. Et dans les années 80, on parle de l'âge d'or des bars lesbiens. Donc, il y avait vraiment beaucoup de bars lesbiens, notamment sur la rue Saint-Denis. Donc, c'est des lieux qui aujourd'hui ne sont même pas identifiés. Donc, c'est assez intéressant. On peut passer devant et même pas se rendre compte que c'était des bars lesbiens. Et graduellement, donc, ces bars ont cédé la place à des bars un peu plus mixtes, un peu plus queer, donc une population plus mixte. Bon, il y a plusieurs raisons à ça. Donc, notamment, certaines personnes ne sentaient plus le besoin de fréquenter des bars lesbiens pour se retrouver entre elles. Et dans le village aussi, il y avait beaucoup de bars lesbiens, de lieux lesbiens dans les années 90. Donc, ça a commencé à diminuer graduellement au début des années 2000. Et une des raisons qui sous-tend la disparition des bars, c'est aussi les enjeux socio-économiques. Donc, on parle souvent de l'argent rose, qui est le pouvoir d'achat des communautés homosexuelles, qui fait en sorte que c'est très possible de développer beaucoup de ressources, d'entreprises, de commerce gay. Parce que c'est rentable, parce qu'il y a un grand pouvoir d'achat de la communauté gay, mais c'est principalement, évidemment, la communauté masculine. Donc, il y a des différences socio-économiques qui font en sorte que c'est plus complexe d'acheter, d'investir dans des espaces fixes. Donc, souvent, on va se rabattre sur des soirées éphémères, des soirées changeantes.
C'est étonnant parce que c'est comme s'il y avait eu une régression entre le pic des années 80 et aujourd'hui, alors que la société s'est relativement ouverte, qu'on a gagné des droits. Pour l'instant, les lieux de rassemblement, c'est un peu la dynamique inverse.
Oui, c'est ça. Puis, d'un autre côté, on pourrait dire que c'est parce qu'on se sent plus en sécurité dans des espaces qui sont non nécessairement lesbiens. Bien. Donc, il y a beaucoup d'espaces qui sont codés comme étant inclusifs. Donc, ça peut être vu dans les deux sens. Oui, une certaine régression et en même temps, oui, une meilleure aisance à naviguer d'autres espaces à travers la ville.
Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, tout simplement, pour développer ces lieux?
Bien, c'est sûr que le financement est une grande source de... un grand enjeu, en fait, pour pouvoir ouvrir, pour pouvoir investir dans des espaces, donc financer autant des organismes communautaires que des collectifs. Donc ça, c'est déjà un grand aspect. Donc on peut penser aussi, même là, on n'a pas parlé de ça, mais par exemple, même il n'y a pas de clinique de santé pour les femmes de la diversité sexuelle. Donc souvent, elles vont fréquenter des cliniques qui sont plus fréquentées par des hommes gays. Et donc, il n'y a pas aussi bonne connaissance des enjeux, par exemple, liés à la lesbophobie. Donc, de créer des espaces, tout autant, pas juste des espaces festifs, mais des espaces aussi dédiés à la santé, des femmes de la diversité sexuelle et des espaces médiatiques et culturels. Mm-hmm.
Vous portez des revendications à travers cette campagne. Est-ce que vous vous adressez au pouvoir public? Est-ce que c'est eux qui détiennent la clé du changement?
Oui, ben, définitivement. Il y a seulement 3 organismes lesbiens qui sont officiellement, légalement répertoriés à travers le Canada. Mm-hmm. Donc, on demande davantage de financement pour des initiatives qui sont menées par et pour les femmes et les personnes de la diversité sexuelle. Notamment, par exemple, des initiatives de santé, même en recherche, dans le domaine de la recherche, il y a quand même un certain trou dans les connaissances qu'on a sur les enjeux lesbiens à travers le Canada. Donc, des financements accrus. Et évidemment, les enjeux lesbiens sont articulés à des enjeux de la défense des droits des femmes et aussi des personnes non-binaires, donc d'assurer la sécurité, de contrer le harcèlement, faire des campagnes contre le harcèlement de rue. Donc, on sait que les personnes qui sont non conformes au genre ou qui sont lesbiennes ou codées comme des couples lesbiens en public vont avoir tendance à vivre plus de micro-agressions et donc de mettre des campagnes de sensibilisation en place. Cette année, on a demandé à des municipalités à travers le Canada d'adopter une résolution qui souligne la journée de visibilité lesbienne. Et pour le moment, on a 45 municipalités à travers le Québec qui ont accepté de souligner la journée de visibilité lesbienne.
Donc, une journée comme celle-ci, elle est symbolique, mais elle permet aussi, elle a vraiment un impact politique. C'est pas seulement faire une campagne pour le symbole, c'est aussi avoir un impact dans la vie publique.
Tout à fait, et de reconnaître aussi l'intersection du sexisme et de l'homophobie et de montrer la particularité de ces enjeux-là, autant au sein des communautés LGBT que dans le contexte public général.
Alors, pour en revenir au thème de votre campagne, c'est habiter l'espace et vous poser la question, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, vous adressant à votre communauté, qu'habiter l'espace, quelle serait votre réponse?
Bien, c'est intéressant, on parlait même on parlait avec notre conférencière invitée Alice Coffin qui vient de France pour la journée de visibilité lesbienne samedi. On parlait de l'importance de, en fait, la phénoménologie de comment on occupe l'espace en tant que femme. Donc, on apprend dès qu'on est jeune à fermer les jambes, à faire plus attention, à prendre moins d'espace. Et donc, il y a un certain courage en tant que lesbienne d'occuper l'espace, donc d'avoir une sexualité qui est non normée, de prendre plus d'espace, de parler davantage, de ne pas s'associer à un homme ou à des enjeux liés à l'hétérosexualité pour pouvoir se valoriser. Donc, il y a quand même une certaine prise, une prise d'espace, même physique, qui est intéressante à ce niveau-là.
Et alors justement, vous parliez de votre invitée spéciale venue de France, Alice Coffin. Vous organisez donc toute une journée le 27 avril d'événements.
Oui.
Qu'est-ce qui va se passer?
Donc, on a plusieurs panels. Donc, on commence par un panel sur l'humour, donc sur les femmes et les personnes lesbo-queer en humour, animé par Coco Béliveau. Ensuite, on a notre conférencière Alice Coffin, qui est militante, journaliste et élue, qui vient nous parler de France. Elle a publié le fameux livre « Le génie lesbien » en 2020. Et on a des remises de prix par la suite. Donc, on célèbre des personnes qui ont eu un grand impact dans les communautés, dans des communautés lesbiennes. Donc, on remet des prix. On termine la soirée par des performances artistiques avec des drag kings.
Super. Et vous mêlez cette discussion sérieuse, intellectuelle parfois, à un cocktail, un party. Le côté festif était important également?
Oui, c'est ça. C'est important pour nous de ne pas juste parler. Des fois, on se centre trop sur les problèmes, sur les enjeux, sur les discriminations. Donc, pour nous, c'est important aussi de célébrer. C'est pour ça aussi qu'on a eu un panel sur l'humour. Donc, d'essayer aussi de faire rire. On va avoir des numéros d'humour. Donc, d'essayer d'allier, parce qu'on célèbre à la fois, on souligne nos problèmes, mais on célèbre aussi le potentiel de résilience, la créativité de nos communautés. C'est vraiment un beau moment.
Très bien. Merci beaucoup, Tara, d'être venue nous expliquer les enjeux liés à cette journée. Ça se passe donc au Bain Mathieu à partir de 14h, le 27 avril, c'est ça?
Exact.
Et puis sinon, on peut vous retrouver sur rlq-qln.ca.
Exact. Et aussi sur notre Facebook ou Instagram.
Très bien. Merci beaucoup, Tara. Et puis,
merci.
Bon week-end.
Merci beaucoup.
On continue sur CIBL avec la chronique rhétorique d'Amanda Fakihi.
Yeah. cherchez une activité originale, ludique et rassembleuse? Venez jouer avec nous au Bingo Radio de CIBL tous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. À gagner 3 500 $ en prix. Pour participer, procurez-vous un livret de cartes de bingo pour moins de 10 $ dans un point de vente près de chez vous. Consultez la liste sur notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. C'est un rendez-vous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. Invitez vos amis. Bonne chance!
Il y a du nouveau à CIBL. Nous sommes fiers de vous présenter notre palmarès indépendant, les 30 Glorieuses. Tous les vendredis de 16h30 à 18h, moi-même, Caroline, j'ai le plaisir de vous présenter les 30 chansons les plus en demande de la semaine. Vous ne pouvez pas vous joindre en direct? Pas de souci. Rendez-vous au CIBL1015.com et retrouvez toute la sélection hebdomadaire sur notre site Internet. Nous sommes également en rediffusion les samedis à 7h30. C'est un rendez-vous.
Salut, je m'appelle Sophie Chartier. Si vous êtes comme moi, ça vous arrive de vous demander qu'est-ce que les gens écoutaient, mettons, en Afghanistan dans les années 70? Ou bien, c'est quoi la différence entre salsa et bachata? Les vendredis à 20h30 sur les ondes de CIBL 101.5, embarquez avec moi et mes invités dans un voyage spatio-temporel à la découverte d'un courant musical fascinant. Ses origines, ses chansons, ses artistes. Courant d'air, c'est l'émission de découverte musicale à ne pas manquer pour une exploration en profondeur et en plaisir des musiques marquantes du monde entier.
De Holiday Inn où j'ai fêté toute la nuit. Je me rappelle pas comment j'ai fait pour en arriver là. J'ai la peau qui sent le Jim Beam, j'ai mal à ma vie parce que j'ai fait tout ce que j'avais pour perdre ma place. Entre tes bras, j'ai pris le champ. Lâche dans le rétro, au cœur de la Saint Francis Valley, là où les gorges m'ont avalé. J'ai tenté de fuir le spleen qui me clouait au plancher, mais j'ai pas de gros bord, rien d'assez fort pour me décoller. J'ai frenché des filles bien fines, mis de l'eau dans le rosier, mais jamais rien pour oublier la chaleur de ton corps. Contre le mien, j'ai pris le champ avec mon écho. J'ai vu le flash dans le rétro, au cœur de la Saint Francis Valley. J'ai pas encore compris, j'ai plus assez de codéine pour tuer l'insomnie. Au cœur de la Saint Francis Valley, là où les gorges m'ont avalé. Au cœur de la Saint Francis Valley, là où les gorges.
CIBL. Et on est de retour avec Amanda Fakihi et sa chronique rhétorique. Bonjour Amanda, bon matin.
Bonjour Charline.
Et aujourd'hui, comme d'habitude, tu nous proposes d'analyser quelques discours pour en tirer un peu les éléments rhétoriques. Et de qui tu nous parles, de quoi tu nous parles aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je vous propose un menu concocté par un seul chef qui nous a servi tout un plat gargantuesque ces derniers jours. Alors si je vous dis soupe au lait, vous répondez ?
Je voudrais pas me risquer, mais peut-être PSPP.
PSPP ! Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Alors je contextualise le tout. Il y a quelques jours, au terme d'un conseil national du PQ à Drummondville, et l'enjeu portait sur l'habitation. Mmh. Alors PSPP nous livre un discours à saveur profondément antifédéraliste. Et je dirais même qu'il s'agit d'un discours emprunt de ce que j'appelle d'alarmisme souverainiste. Alors il ne passe pas par quatre chemins pour désigner son ennemi. Et je cite, « le régime fédéral ». Toum, toum, toum. Alors ce régime fédéral qui, selon le chef péquiste, cherche à effacer le Québec. Ce régime responsable des déportations, des exécutions, de l'interdiction d'avoir de l'éducation aux Français. Un régime qui se fout de la Constitution canadienne, qui abuse de ses pouvoirs d'immigration aux frontières et dans les aéroports pour déstabiliser le Québec. Un régime qui planifie ouvertement et explicitement le déclin du Québec. Et un régime qui ne sait qu'écraser ceux qui refusent de s'assimiler. Et il conclut qu'il a la certitude que les Québécois auront une dernière chance de vivre un troisième référendum d'ici 2030, sans quoi le peuple québécois risque la disparition. Ouf, ça, c'est une rhétorique résolument catastrophiste.
Et est-ce qu'il y a un objectif derrière ce catastrophisme ?
Oh, bien sûr, bien sûr. Alors, sa visée vise principalement à susciter la peur, l'inquiétude quant à l'avenir du Québec sous l'égide du gouvernement, régime fédéral. Alors, en désignant clairement un ennemi commun, qui est le régime fédéral, cette rhétorique cherche à mobiliser les partisans souverainistes autour d'une menace. Sur le plan rhétorique, c'est un choix lexical qui a une certaine connotation particulière. Hein. Mmh. En utilisant le mot « régime », PSPP suggère une forme de gouvernement oppressante, autoritaire, ce qui souligne une perception négative du gouvernement fédéral et du gouvernement Trudeau. Et pourquoi l'utilisation du régime plutôt que gouvernement ? Eh bien, pour renforcer l'idée d'une structure politique rigide, non démocratique, ce qui contribue en quelque sorte à diaboliser cette entité politique. Bon, on peut se poser la question, est-ce que politiquement c'est productif ? Bah oui, cette rhétorique peut être productive en galvanisant la base existante, donc la base souverainiste, en incitant à l'action pour contrer les menaces contre l'identité et les intérêts du Québec. Mais il y a un hic, parce que PSPP ne cherche pas uniquement à séduire sa base. Et je cite, « que vous soyez conservateur, progressiste, centriste, libertarien, de droite économique, ou même pastafarien. »
Ok, je ne connaissais pas.
Alors ah oui, il nous apprend des choses. Hein. Alors les électeurs plus modérés, ou ceux qui privilégient une approche pragmatique de la politique, ils peuvent être rebutés par ce ton alarmiste de PSPP. Alors, plutôt que de proposer une vision positive, constructive de l'indépendance, il met l'accent sur les dangers, les menaces qui sont liées au maintien du statu quo. Et ça peut sembler exagéré, déconnecté de la réalité pour certains. Alors, PSPP peut être perçu comme quelqu'un de dogmatique, qui est fermé au dialogue, ce qui peut aliéner les électeurs qui valorisent le compromis, la collaboration. Bref, c'est un choix rhétorique.
Mais contre-productif.
Contre-productif.
Est-ce qu'il y a quand même un passage qui t'a marqué positivement ?
Oui, j'ai relevé une belle petite pépite rhétorique. Alors, lorsqu'il prononce ceci, je cite, « L'histoire nous interpelle, notre destin nous appelle. Tout ce qu'il reste à trancher, c'est comment nous allons nous inscrire dans cette histoire. L'histoire nous interpelle, notre destin nous appelle. » Alors ici, nous avons la figure de style que l'on appelle « parallélisme ». Son objectif, équilibrer, répéter des structures syntaxiques similaires dans une phrase ou entre plusieurs phrases pour créer un effet de symétrie ou d'harmonie. Alors, dans cet exemple, les deux parties de la phrase, donc l'histoire nous interpelle, notre destin nous appelle, sont construites de manière similaire, ce qui met en parallèle l'appel de l'histoire et celui du destin. Et ça renforce l'harmonie, l'impact de l'énoncé. On observe également une rime interne hein, entre les mots « interpelle » appel. Et cette répétition sonore crée un effet d'harmonie, de musicalité qui renforce le lien entre ces deux idées. L'appel de l'histoire et celui du destin. Ça crée une cadence qui est agréable à la phrase, qui rend le message plus mémorable pour l'auditeur. Et en associant l'idée que l'histoire appelle les Québécois à agir avec celle que leur destin est lié à ce projet politique, qu'est la souveraineté, eh bien PSPP crée un sentiment d'urgence et de responsabilité collective. Ces déclarations, elles résonnent comme un appel à l'action qui incite les partisans à se positionner dans le récit de l'histoire québécoise et à prendre en main leur destin. Et une autre observation. Bon, il énonce des faits historiques, il mobilise ce qu'on appelle le logos, hein, donc des arguments factuels, en exposant certaines périodes historiques sombres du gouvernement fédéral. Mais son discours ne propose pas de projet d'indépendance en ballon. Il mise plutôt sur un excès de pathos, donc il mobilise les émotions, basé sur la dramatisation, l'alarmisme, pour rallier les partisans à sa cause. En mettant en avant la menace de la disparition du Québec, il cherche à créer un sentiment d'urgence et une nécessité d'action. Parce que pour PSPP, la souveraineté est une nécessité. Et si on reste au Canada, on est appelé à s'effacer. Et soyons honnêtes, Charlie, est-ce que chaque matin, tu te réveilles avec le sentiment que le gouvernement fédéral te piétine, t'écrase, t'étouffe? Est-ce que ton cœur bat frénétiquement, t'es une bête féroce, à l'étroit, dans sa cage? À force de penser aux déportations des Acadiens de 1755, et loin de moi de minorer cette période sombre de l'histoire du Canada. Hein.
Je dirais pas que je ressens ces sentiments de manière aussi excessive.
Bon, voilà, il y a quelque chose de contre-productif dans cette rhétorique. Attention, les faits qu'il expose ne sont pas factuellement faux. Mais une telle rhétorique peut polariser, diviser, elle peut renforcer les clivages politiques plutôt que de favoriser le dialogue et le consensus. Parce qu'une souveraineté sans un sens profond du collectif, bah, c'est un projet voué à l'échec. Mmh.
N'empêche que PSPP est toujours en tête des sondages, non ?
Oui, il trône toujours en tête des intentions de vote, selon le dernier sondage léger, avec 34%.
Et pour l'appui à la souveraineté ?
Autour de 36%.
Donc un peu de modestie de la part de PSPP ne ferait pas de mal, non ?
Bah voilà, écoutez, seule l'histoire, on jugera.
Alors quel conseil tu donnerais au chef péquiste quant à sa rhétorique souverainiste, puisque c'est ta spécialité aujourd'hui ?
Alors je dis oui à la passion, oui à l'émotion, oui à la conviction, mais de grâce qui nous propose un projet qui fasse rêver, mais vraiment, hein, qui nous embarque dans un projet qui suscite des étoiles dans les yeux, qu'il conserve sa recette originelle, c'est l'accès sur la mesure, la pondération. J'aimais bien PSPP version A, version originelle. Et pour réussir à rallier un large soutien à sa cause, pour vendre l'idée d'un pays, PSPP devrait adopter une approche plus nuancée, inclusive, qui mettrait en avant les avantages de l'indépendance. Parce que se contenter de jouer sur la peur, bah, ça ne dégage pas beaucoup d'enthousiasme.
Au début de la chronique, tu nous parlais de soupe au lait. Est-ce que tu pourrais nous raconter cet épisode depuis ton point de vue rhétorique ?
Oui, bah, tout d'abord, définissons l'expression soupe au lait. Alors, c'est une personne susceptible qui s'emporte rapidement, à l'image d'une casserole au lait qui, chauffée, finit par déborder.
Et alors, quel est le contexte de cet épisode de soupe au lait ?
Alors, ça s'est passé il y a environ une semaine. PSPP est intervenu lors de l'étude des crédits budgétaires. Hein. Je rappelle, c'est un exercice de reddition de comptes auprès du gouvernement. Donc les partis d'opposition talonnent le gouvernement. Et à plusieurs reprises, PSPP a pressé le Premier ministre, François Legault, de réaffirmer son engagement à obtenir les pleins pouvoirs en matière d'immigration. Et s'il était prêt à soutenir le camp du oui si la voix du milieu échouait. Donc des questions auxquelles le Premier ministre a refusé de répondre, préférant lire des déclarations antérieures de PSPP sur l'échec de l'option souverainiste, des déclarations qui étaient faites à une époque où PSPP ne la soutenait pas. Et à la fin de son intervention, qui n'a duré que 12 minutes, PSPP quitte la salle bleue. Un départ éclair. Un comportement qualifié de soupe au lait par le ministre Drainville. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est la réaction de PSPP. Et face à cette accusation.
Et alors, quelle est-elle ?
Alors, PSPP réagit en publiant une photo de lui en train de boire un bol de lait, hein, une photo sur Facebook, X, accompagnée de la légende suivante, je cite, « Après m'avoir qualifié de radical, extrémiste, conservateur et même violent, mes adversaires m'ont traité aujourd'hui de soupe au lait. Je suis finalement démasqué. Bon appétit !» Alors ici, nous avons un exemple parfait. Attends, voilà, c'est un mot un petit peu barbare. Autocatégorème. Donc l'autocatégorème. Qu'est-ce que ça grignote en hiver ? Alors c'est une figure de style rhétorique dans laquelle un individu se qualifie lui-même de manière ironique, humoristique, souvent reprenant des critiques, des étiquettes qui lui ont été collées au front par d'autres. Et c'est une figure qui met en lumière la capacité de l'individu à prendre du recul par rapport à lui-même, à sa propre image publique, tout en utilisant l'autodérision pour commenter ou réagir à des critiques. Et dans cet exemple, PSPP utilise l'autocatégorème en répondant de manière sarcastique à l'accusation d'être soupelé qui a été lancée par ses adversaires. Et en tournant en dérision cette critique, il démontre une réaction humoristique, ce qui renforce son image de leader capable de faire face aux critiques avec aplomb.
Et au-delà de l'humour, est-ce qu'il y a un effet véritable ?
Oui, alors on a un effet qui est double. D'une part, ça permet à PSPP de se démarquer des attaques de ses adversaires en les tournant en dérision, ce qui peut renforcer sa crédibilité ou, comme on le dit dans le jargon rhétorique, son éthos et sa popularité auprès de ses partisans. Donc non seulement c'est un homme qui a des convictions profondes, mais c'est quelqu'un qui peut se permettre quelques légèretés. Donc il n'est pas constipé, c'est quelqu'un qui peut ne pas se prendre au sérieux. Et d'autre part, ça montre un certain niveau de confiance en soi, d'auto-acceptation, ce qui peut être perçu comme une qualité attrayante chez un leader politique. Bref, l'autocatégorème permet à PSPP de réagir de manière persuasive aux critiques, tout en communiquant une image de leadership affirmée et charismatique.
Merci beaucoup Amanda, en tout cas ça m'a donné faim cette soupe au lait, je vais tester la recette de PSPP. On peut te suivre sur LinkedIn pour retrouver du contenu rhétorique pour ceux qui en raffolent et également sur ton site web tenetstrategie.ca. Merci beaucoup Amanda et puis on se retrouve bientôt pour... passer sur le grill un autre politicien.
À très bientôt. Merci beaucoup, Charline.
On continue sur CIBL avec l'entrevue de Lise Courteau pour parler de travail invisible.
Petit pas à pas, j'avance et mon état me pèse. Je ne sais qu'en faire pour qu'il te plaise. C'est l'enfer. Ok, c'est facile de se moquer, mais c'est moins évident de viser quelque chose de beau. Et puis c'est dur de s'effacer comme un mur qui serait considéré comme quelque chose de trop. Tout est différent quand on est entouré des autres. Comme on est plus grand quand les enfants sont les nôtres. Moi j'abandonne et je te lance comme ça, that's it. Mais quand je m'en tête à penser de même, alors j'entends ma voix qui insiste. Tout est différent quand on est entouré des autres. Comme on est plus grand quand les enfants sont les nôtres. Après tout, tout le monde espère la fin de l'hiver qui arrive toujours. Ta chance, avant que heureux que j'entends dans la ici pour un instant, sur la piste en même temps, on se ferait des choses, on se ferait des choses.
Vous écoutiez Après tout de Karim Ouellet et on est ce matin avec Marianne Pertuiset-Ferland, présidente de l'association féministe d'éducation et d'action sociale, la FEAS. Bonjour Marianne.
Oui, bonjour. Je suis directrice générale.
Directrice générale, c'est encore mieux. La FEAS vise donc à défendre les intérêts des femmes québécoises et canadiennes auprès de diverses instances. De quoi on parle ?
De tout plein de choses. Donc l'égalité, l'égalité des genres, c'est quelque chose qui va vraiment influencer tous les aspects de la vie d'une personne. Là, précisément, on parle du travail invisible, mais on peut aussi parler de plein d'enjeux comme l'équité salariale, le droit à l'avortement, l'autonomie corporelle et tout ça.
Et alors, quels sont vos moyens d'action? Que faites-vous pour défendre l'égalité entre les femmes et les hommes?
En fait, on travaille avec les citoyennes. Donc, on a des groupes locaux dans à peu près 200 municipalités au Québec. Donc, ces groupes-là sont formés de citoyennes. Elles organisent des activités de mobilisation sociale, d'éducation populaire également. Puis, on fait beaucoup de plaidoyer politique. Donc, on écrit des mémoires, on participe à des commissions parlementaires pour faire valoir les droits des femmes.
Très bien. Et je vous reçois justement aujourd'hui pour parler du manifeste pour la valorisation du travail invisible que vous avez récemment déposé auprès de la ministre responsable de la condition féminine. C'est quoi le travail invisible pour commencer?
Oui, c'est tout plein de choses. Le travail invisible, ça inclut tout le travail qui est non rémunéré, qui est effectué au sein de la famille, donc à la maison. Donc, on parle des soins aux enfants, des tâches domestiques, ménage, épicerie, tout ça. Il y a aussi le travail qui est effectué par les personnes proches aidantes, donc auprès de personnes en perte d'autonomie ou avec des problèmes de santé. Également, le travail effectué, le travail non rémunéré ou sous-rémunéré qui est effectué sur l'entreprise familiale. Donc ça, on voit beaucoup ça, entre autres, dans le milieu agricole. Donc, il y a beaucoup de femmes qui travaillent à temps plein sur l'entreprise de leur conjoint, par exemple, mais qui n'ont aucune part dans l'entreprise ou qui n'ont aucun salaire pour ça. Et on parle aussi du travail bénévole et des stages non rémunérés. Donc, tout ça, ça rentre dans le travail invisible qui est encore en grande partie là, effectué par les femmes.
C'est ça, j'allais vous demander en quoi c'était une cause qui concerne l'égalité homme-femme. La raison, c'est que c'est majoritairement des femmes qui effectuent ce travail.
Oui, exactement. Puis, cette inégalité-là dans la charge de travail invisible fait en sorte de vraiment appauvrir les femmes, de les pénaliser, donc autant au niveau de leur santé mentale, physique, et de leur possibilité d'épanouissement professionnel, économique, social, personnel. Donc, ça a vraiment un impact sur tous les aspects là, de leur vie.
Est-ce qu'on peut estimer le profil des personnes qui effectuent ce travail invisible ou c'est compliqué à déterminer?
C'est compliqué à déterminer. On a de la difficulté à aller chercher des chiffres exacts, vu que, justement, c'est du travail qui se fait à la maison. Mm-hmm. Souvent, c'est pris pour acquis, donc parfois, on ne se rend même pas compte qu'on fait du travail invisible. Mais, en gros, c'est majoritairement les femmes. C'est sûr que quand il y a des enfants dans la maison, ça augmente, ou quand il y a des parents âgés, par exemple. Donc, mais des fois, c'est des gens qui aident leurs voisins. Donc, ça peut vraiment être toutes sortes de personnes. Puis on sait que, par exemple, dans les familles, par exemple, les femmes immigrantes qui ont souvent des charges de travail invisibles additionnelles, par exemple, tout le travail d'intégration dans la nouvelle culture, le travail de francisation, tout ça. Donc, il y a toutes sortes de personnes, mais c'est beaucoup les femmes là, qui ont ça à faire.
Question simple, mais pourquoi ce sont des femmes qui effectuent ce travail invisible?
Grande question. Je pense que c'est beaucoup dû à la socialisation genrée, donc les stéréotypes. Dans le fond, quand on élève beaucoup les petites filles à prendre soin, s'occuper, être douce, s'assurer du bien-être de tout le monde, notamment en jouant avec les poupées et tout ça, alors que les hommes sont souvent encouragés, ou les petits garçons sont souvent encouragés à aller à l'aventure, aller faire des casse-têtes ou régler des problèmes ou des choses comme ça. Donc, je pense que ça reste tout au long de la vie. Je pense que les femmes ont beaucoup plus de pression, par exemple, pour avoir une maison propre. Quelqu'un vient visiter, puis la maison est pas propre, souvent, on va comme assumer un peu plus que, bon, ça aurait été la responsabilité de la femme de ranger tout ça. Aussi, le fait qu'il reste l'iniquité salariale qui fait en sorte que souvent, quand un des deux parents doit s'absenter du travail pour prendre soin de l'enfant ou d'un proche malade, c'est souvent la femme qui va le faire parce que au final, si la perte de revenus va être moins grande si c'est elle qui s'absente du travail que l'homme. Mm-hmm. Mais ça, ensuite, ça a plein d'impact là, par la suite. Dans le fond, les personnes qui s'absentent plus souvent du travail vont avoir moins d'opportunités d'avancement professionnel, vont pouvoir moins cotiser, par exemple, pour la retraite. Donc, vont se retrouver à être pénalisées tout au long de leur vie, vraiment jusqu'à la retraite. Là.
Alors, parmi ce travail invisible, vous l'avez mentionné, il y a les tâches domestiques telles que les courses, le ménage, les soins aux enfants. On peut penser que ce sont seulement des exigences liées au domaine privé, familial. En quoi on le considère comme un travail aujourd'hui?
Ben en fait, parce que tout ce travail-là qui est invisible est vraiment essentiel pour le fonctionnement de la société et de l'économie. Dans le fond, tout ce travail-là qui est fait gratuitement par les femmes, c'est du travail qui n'est pas à prendre en charge par le gouvernement, par les institutions publiques. Également, tous les hommes d'affaires, les grands politiciens qui vont travailler puis qui n'ont pas besoin de se soucier de, par exemple, aller chercher leur enfant qui est malade. Puis encore, je fais des généralisations, je ne veux pas insulter personne, je sais qu'il y a de plus en plus d'hommes qui prennent leur partie là, du travail invisible à la maison, mais dans le fond, il y a plein de choses. Dans le fond, ça libère le temps et ça libère les ressources pour permettre à la société et à l'économie de fonctionner correctement.
Et est-ce que le grand public considère cette tâche comme du travail? Est-ce que les femmes concernées savent que ça l'est?
En fait, il y a tout un travail de sensibilisation à faire. Donc, à la FEAS, on fait ça depuis, ça fait plus de 50 ans là, qu'on travaille sur ce dossier-là. Et on se rend compte que même parmi les membres à FEAS, il y en a qui disent, ben non, non, pour moi, c'est pas du travail, ça me fait plaisir de le faire. Puis on veut pas nier ça du tout. Puis dans le fond, l'idée, c'est pas de condamner le travail invisible, c'est juste que de reconnaître que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, qui prend beaucoup d'énergie et qui... s'il n'est pas bien valorisé, s'il n'est pas bien partagé, ça peut avoir des impacts importants.
Alors, les travailleuses invisibles ont été visibilisées, pour le coup, durant la pandémie, lorsque leur rôle s'est avéré essentiel, notamment parce que les écoles, les hôpitaux étaient fermés. Cet effet visibilisateur n'a pas été durable?
En fait, je pense qu'on a pris conscience. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris conscience de ce travail-là, mais... ça n'a pas vraiment réglé le problème. En fait, même pendant la pandémie, on l'a vu, mais on n'a pas vraiment... Je ne pense pas que ça a amélioré les choses pour les femmes. Là. Je pense qu'elles se sont retrouvées avec une charge de travail plus importante, avec notamment les enfants à la maison, la responsabilité de décontaminer, de s'assurer de la sécurité de tout le monde. Mais au final, comme beaucoup d'enjeux qui ont été mis en lumière pendant la pandémie... après, on est content de retourner à la normale, puis on oublie un peu ce qu'on a appris.
Mais alors, quel est l'impact de ce travail invisible sur la vie des femmes? Pourquoi vous manifestez pour que ce travail invisible soit reconnu?
Oui, l'impact, il y en a plusieurs. Si on va essayer de trouver des chiffres, là, comme je disais, c'est un peu difficile de comptabiliser tout ça, mais... en 2015, ça avait été, dans le fond, les chiffres qui étaient ressortis, c'est que les femmes au Canada font en moyenne 3,6 heures de travail domestique à chaque jour contre 2,4 heures pour les hommes. Donc, si on additionne juste cette différence de temps-là par jour, sur une année, ça équivaut à 11 semaines de 40 heures, juste de travail invisible. Donc, ça, on peut imaginer à quel point... tout ce temps-là effectué de plus pour du travail qui n'est pas reconnu, pas valorisé, ça peut avoir des impacts importants. Donc, les femmes doivent s'absenter plus souvent du travail. Comme je disais, il y a moins d'avancement professionnel qui est possible. Donc, elles finissent par gagner un salaire moins important. Aussi, si on parle du travail non rémunéré sur l'entreprise familiale, si, par exemple, il y a une séparation ou un décès, ça place vraiment les femmes dans des situations de précarité. Également, pour les personnes proches aidantes, il n'y a aucune mesure de protection. Donc, si, par exemple, la personne se blesse en effectuant des soins pour la personne de qui elle prend soin, il n'y a aucune protection pour cette personne-là. Donc, ça a plein d'impact. C'est sûr au niveau financier, mais aussi, par exemple, les femmes ont moins de temps pour faire du sport, pour prendre soin d'elles, pour s'impliquer au niveau politique. Donc, ça peut vraiment avoir des répercussions là, dans vraiment toutes les sphères de leur vie.
Et de l'autre côté, vous disiez que la société bénéficie pleinement de ce travail invisible et qu'on ne s'en rend pas forcément compte.
Tout à fait. Et dans le fond, l'idée, c'est on ne demande pas d'avoir un salaire là, pour ce travail-là, mais c'est vraiment de mettre en lumière tout ce travail-là qui est effectué, le caractère essentiel de ce travail-là. Donc, comment ça permet à toute la société de fonctionner. Et avec cette prise de conscience-là, on espère vraiment qu'il y ait une évolution des mentalités, puis qu'il y ait un partage beaucoup plus équitable qui puisse se faire là, de ce travail-là.
Et alors, on passe aux solutions, à vos revendications qui sont très nombreuses. Sur le plan économique, tout d'abord, comment faire pour valoriser ce travail invisible?
Oui, donc on a plein d'idées. c'est sûr que notre revendication principale pour cette année, celle sur laquelle on insiste le plus, pour nous, c'est la reconnaissance par les gouvernements de la Journée nationale du travail invisible qui a lieu chaque premier mardi d'avril. Donc, pour nous, c'est une manière de vraiment... C'est un peu symbolique là, pour permettre de vraiment mettre en lumière ce travail-là, d'initier des discussions, des réflexions, puis de vraiment pouvoir, par la suite, là, avec le changement des mentalités, mettre en place des mesures plus concrètes. Par la suite, c'est ça, on aimerait... ce qu'on demande, c'est de pouvoir mettre en place des mesures pour d'abord mieux comptabiliser ce travail-là, donc voir un peu l'ampleur de ce travail-là, qui fait quoi, et d'intégrer la valeur du travail invisible dans le calcul du produit intérieur brut. Mm-hmm. Parce que, selon Statistique Canada, en 2019, la valeur économique du travail ménager non rémunéré se situe entre 516,9 et 860,2 milliards de dollars par année. Donc, ça représente entre 25 et 37 % du produit intérieur brut.
OK. Ouais. C'est pas mal. Et sur le plan de la sociale, de la reconnaissance sociale, comment on fait pour valoriser ce travail?
Je pense que c'est en parlant, en discutant, en s'éduquant. On demande, entre autres, que cette question-là soit abordée au niveau scolaire, donc dès le primaire. Aussi au niveau de... Dans le fond, de mettre en place des mesures, entre autres dans les entreprises, pour encourager un meilleur partage, donc une meilleure conciliation famille-travail. Mais souvent, on voit ces mesures-là de conciliation qui visent surtout les femmes. Mais nous, ce qu'il faudrait, en fait, c'est que qu'on encourage de plus en plus les hommes à profiter de ces mesures de conciliation-là pour assurer un partage plus équitable.
Mm-hmm. Vous parlez d'accomplir une réelle transformation sociétale. C'est d'une ampleur aussi grande que ça, de reconnaître le travail invisible?
Oui, vraiment, parce que je pense que c'est toutes nos... C'est comme si toutes nos structures, toutes nos façons de faire prennent pour acquis que c'est comme ça que c'est, puis c'est comme ça que ça fonctionne, puis mm-hmm. que ça va continuer à fonctionner comme ça. Puis je pense qu'au Québec, on est quand même assez avancé en termes d'égalité, mais c'est vraiment au niveau des mentalités, c'est difficile de changer les choses. Puis tu sais, moi, je suis enceinte, puis je me rends compte déjà, tu sais, puis je suis féministe, je m'éduque là-dessus, tout ça, puis j'ai encore des petits mécanismes qu'il faut que je fasse attention puis que je défasse de comment je vois la maternité, par exemple, comment je vois le rôle des parents, comment... Donc, je pense qu'on a toutes et tous du travail à faire là-dessus pour un peu désapprendre nos façons de fonctionner pour trouver des manières de collaborer ensemble qui soient plus équitables et qui fait en sorte que personne n'est pénalisé au final. Mmh.
Votre manifeste, il a été signé par plus de 2000 personnes, par 150 organismes. Il est appuyé par les trois partis d'opposition sur la scène provinciale. Est-ce qu'il y a des acteurs qui s'opposent à cette cause ou qui ne la reconnaissent pas?
Pas à ma connaissance. Je pense pas que personne s'oppose à ça, mais je pense que ce qui est difficile, c'est d'obtenir une reconnaissance officielle parce que, c'est parfois pas considéré comme la priorité. je pense aussi que on s'inquiète que ça va coûter de l'argent. Donc au niveau du gouvernement, je pense que il y a pas de problème de dire oui, c'est important, puis oui, mais on reconnaît l'importance de mais de là à vraiment dire on fait une journée puis on met en place des mesures, ben là c'est, dès que ça coûte de l'argent, ben c'est pas nécessairement considéré comme prioritaire.
Et il se trouve pourtant que la reconnaissance du travail invisible était déjà prévue par une stratégie gouvernementale sur l'égalité femmes-hommes.
Oui.
Qu'est-ce qu'on attend pour mettre cette stratégie en place?
Je pense que c'est ça. C'est dans les plans. Après, c'est de voir comment on fonctionne. Pour le gouvernement, la CAQ, je pense qu'ils se demandent un peu, bon, comment procéder. D'abord, sur des technicalités, là, est-ce qu'on fait un projet de loi, un décret, tout ça, comment on fait pour aller de l'avant. Mais aussi, je pense encore une fois, l'inquiétude, c'est est-ce que ça va venir avec des demandes de « OK, maintenant, on veut se faire payer pour ce travail-là ». Donc, c'est ça. Mais on a quand même, quand on a discuté avec le cabinet de la ministre, on a quand même senti une ouverture là, à éventuellement reconnaître la journée officiellement. Donc, on espère que pour la 25e journée du travail invisible l'année prochaine, ça va être chose faite.
Qu'elle soit officielle.
Oui.
Et donc, la suite, c'est quoi? C'est lancer la stratégie politique pour reconnaître le travail invisible. Vous avez d'autres projets en lien avec cette thématique-là?
Oui, ben nous, on n'arrête pas, donc on va continuer à cogner sur le clou tant que c'est pas fait. Puis encore là, même quand on va avoir la journée, il reste toutes nos autres revendications à mettre en œuvre. Donc, on travaille avec les groupes, les femmes et les personnes sur le terrain pour mettre de la pression sur les gouvernements. Donc, c'est sûr qu'on va aller communiquer avec nos élus pour inciter pour que les choses avancent à ce niveau-là.
Très bien. Merci beaucoup, Marianne, d'être venue nous parler de cet enjeu. On peut retrouver toutes les informations sur afeas.qc.ca. Est-ce que les signatures sont encore ouvertes pour le manifeste?
En fait, non, vu qu'on les a déjà déposées, mais on va faire appel à la population là, pour d'autres types d'actions, donc probablement dès cet automne. Puis aussi, vous pouvez visiter le site travailinvisible.ca pour tout plein de ressources là, de sensibilisation et d'éducation.
Oui, il y a une trousse éducative, notamment,
oui,
c'est ça?
Exact.
Très bien. Et bon, on ira s'éduquer. Merci beaucoup, Marianne, et puis bonne suite de lutte.
Merci à vous.
On continue sur CIBL avec la clôture de l'émission et le programme de demain. Et pour nous, l'émission du jeudi touche déjà à sa fin. Je remercie nos invités et nos chroniqueuses du jour d'être passées à l'émission, ainsi que Michaël Asselin pour la mise en onde et les choix musicaux. Demain à 8h, c'est la rediffusion des meilleures entrevues de la semaine, alors restez branchés sur la radio pour suivre ce beau programme. C'était Charline Caro sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une prochaine émission.
D'une petite voix, le mien brûlé, phénix sur ses dernières heures, ayant perdu la foi. Laisse-moi le temps de renaître des cendres et refaire mon plumage, trouver l'élan pour l'envoler la plus grande et t'offrir en partage. pour ton corps céleste. La vie prendra voie si le ciel nous blesse.
Si vous offrez en location un condo centre-ville, un chalet ou une maison ancestrale, au Québec, peu importe l'hébergement touristique de courte durée offert, le numéro, c'est obligatoire. Assurez-vous d'obtenir un numéro d'enregistrement, de l'indiquer dans toute annonce sur le web ou ailleurs et d'afficher votre certificat d'enregistrement à la vue du public. C'est la loi. Plus d'informations sur québec.ca/hébergement touristique. Un message du gouvernement du Québec.
Intention Inc., c'est la célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Sophia Zitto et moi-même, François Morin, allons à la rencontre des secrets les mieux gardés du Québec les jeudis de midi à 13h.
Le père du printemps, c'est moi. À Montréal, je rencontre des humains dont le parcours est un peu le mien et peut-être un peu le vôtre. Sur fond de hip-hop, chaque mardi de 19h à 20h, sur CIBL 101.5.
J'adore. Nous sommes votre rendez-vous de la fin de semaine. En compagnie de nos collaborateurs, on vous informe, divertit et on vous joue le meilleur du hip-hop, afro et rap. Votre dose de bonheur radio électrisant et contagieux. Samedi dès 11h, c'est Chad Amar FM sur CIBL 101.5 Montréal.
Vivre Montréal.
Dans la radio communautaire, parce que les gens se sentent impliqués là, comme une espèce de longueur d'onde.
CIBL, au cœur de la vie citoyenne.